Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média. C'est déjà la première semaine, saison 2 au menu. Média et culture au sens large, je veux dire non masqué. Tous les médias, toutes les formes de culture, puisqu'on parlera aujourd'hui, par exemple, séries télé, gastronomie et également photographie. Ça n'a pas changé, Hélène Manarino sera toujours là avec nous, évidemment, avec son portrait inattendu. Vous retrouvez nos trois castors juniors, Charles Decamp pour le journal des médias, Eva Roch pour son zapping du lendemain et Bertrand Chameroy pour l'écran de veille. La productrice Alexia Laroche-Joubert sera notre invitée. C'est elle qui produit les deux blockbusters de ce week-end, Koh-Lanta qui démarre ce soir sur TF1 et Fort Boyard qui trace sa route le samedi, le lendemain sur France 2. Pour cause de pandémie, les tournages ont failli être annulés et elle n'est toujours pas remise de sa colère contre les assureurs. Vous l'entendrez enfin, Claire Chazal qui démarre lundi une nouvelle saison de Passage des Arts, l'émission culturelle quotidienne de France 5. Et pour paraphraser le chef-d'œuvre de Garcia Marquez, L'amour au temps du choléra, on lui demandera de nous raconter la culture au temps du Covid. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias. Qu'avez-vous au sommaire ce matin?
Ça chauffe entre Apple et Facebook. Des départs chez France 2 et TF1. Netflix parie sur les zombies et TF1 fait sa promo dans sa météo.
Mais on démarre évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
Audience en baisse pour le final de la saison 10 de Profilage qui permet malgré tout à TF1 de prendre la première place. 3,5 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit 19,7% du public. M6 est deuxième avec le retour de la série américaine 911. 2,5 millions de téléspectateurs ont suivi les deux premiers épisodes de la saison 3, c'est 12,6% du public. M6 est surtout largement leader sur la cible des femmes de moins de 50 ans avec 24,9% de part d'audience, c'est 8 points de plus que TF1. La surprise, c'est que c'est France 5 qui prend la troisième place avec son émission des trains pas comme les autres, très enfant cet été. Et oui, les excursions en Géorgie et en Namibie ont fait voyager 1,7 million de téléspectateurs, soit 8,3% du public. Et donc France 2, qu'on a l'habitude de voir sur le podium, on retrouve la chaîne en sixième position.
Non.
Elle retransmettait le Festival des Festivals, un grand concert en direct. 1,1 million de téléspectateurs seulement, soit 6,8% du public.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec Apple qui met des bâtons dans les roues de Facebook.
Apple teste actuellement la nouvelle version d'iOS. C'est son système d'exploitation. Il est présent dans tous ses iPhones et ses iPads notamment. Cette mise à jour sera dévoilée en septembre et l'une des évolutions majeures, c'est un renforcement de la protection des données personnelles. Dans les faits, quand elle sera opérationnelle, tous les utilisateurs d'iPhone ou d'iPad devront donner leur accord pour que leurs informations personnelles soient utilisées dès qu'ils quittent une application.
Donc concrètement, dès qu'on quitte Facebook pour aller par exemple sur un site marchand, c'est
exactement, oui. Quand vous cliquerez sur un lien publicitaire sur Facebook ou sur Instagram, vous devrez autoriser l'application à continuer à collecter vos données. Et Mark Zuckerberg a évidemment très peur que vous cliquiez, non.
Tu m'étonnes qu'on va dire non.
Parce que le nerf de la guerre pour Facebook, vous le savez, c'est la publicité. Le réseau social l'a vend à prix d'or parce qu'elle est extrêmement ciblée. Grâce à toutes les données que le site récolte sur ses utilisateurs, il est en mesure de proposer aux annonceurs de ne s'adresser qu'aux internautes qu'ils souhaitent réellement toucher et donc d'optimiser leurs investissements.
Là, on est vraiment un duel de titans. Facebook et Apple, c'est les GAFA. J'imagine que Facebook ne va pas se laisser faire.
En soi, le groupe ne peut pas s'opposer à cette évolution, donc c'est surtout sur le plan de la communication que ça se joue. Facebook n'a donc pas hésité à sortir les violons pour assurer que dans toute cette affaire, ce sont d'abord les PME qui font leur pub sur Facebook qui souffriront de ces changements. Le réseau social a sorti de son chapeau un chiffre terrible. Selon lui, les milliers d'entreprises qui ont recours à ces services pourraient bien voir leurs revenus baisser de 50% si leur publicité n'était plus ciblée. Il n'a en revanche pas du tout parlé des dizaines, voire centaines de millions de dollars qu'il pourrait perdre, lui, si les annonceurs se détournaient finalement de ces services.
De France 2 à France 5, on revient en France, il n'y a qu'un pas.
Un pas qu'Hugo Clément franchira à la rentrée, ont annoncé hier nos confrères du Parisien. Arrivé sur la chaîne publique la saison dernière, le journaliste révélé dans le Petit Journal sur Canal+, changera donc de crèmerie, mais il conservera l'animation de son rendez-vous sur le front. Qui dit nouvelle chaîne, dit nouvelle formule, alors qu'elle durait 120 minutes, l'émission va être réduite à des épisodes de 52 minutes. En contrepartie, sur le front devrait bénéficier d'un plus grand nombre de numéros. L'an dernier, France 2 en avait proposé 3 en prime time.
Il était venu dans cette émission. Côté audience, ça avait donné quoi?
Des scores assez timides, consacrés aux animaux menacés, aux glaciers et aux océans. Les 3 épisodes de sur le front n'avaient pas fait trembler les concurrents. 1,6 million de curieux pour le premier numéro, qui était le moins suivi des 3, et jusqu'à 2,2 millions de téléspectateurs pour le plus populaire, pour une part d'audience de 8,5%. France Télé assure toutefois que ces audiences n'ont aucun rapport avec le changement de chaîne. Selon le groupe public, France 5 ajoute simplement une marque de plus à son offre de programmes consacrée à l'environnement. Question de cohérence donc.
Mais pour être complet, il faut dire que ça marchait énormément sur les réseaux sociaux et en replay. L'un quitte France 2, donc un autre y arrive.
Alors ils sont pas vraiment sur le même créneau, mais alors que Hugo Clément quitte France 2, Jean-Marc Généreux y arrive.
Et ça, j'achète.
Le chorégraphe, rendu célèbre pour sa participation aux 10 saisons de Danse avec les Stars sur TF1, a en effet décidé de quitter le concours de danse et il l'a annoncé aux Parisiens. Je ne sais pas quand pourra revenir Danse avec les Stars, un spectacle avec beaucoup de proximité. Et personne ne sait, même pour 2021, le report de la 11e saison a énormément pesé dans mon choix. Émotionnellement, c'est difficile de quitter tout ça, a-t-il expliqué à nos confrères.
Et elle va faire quoi sur France 2 ?
La chaîne est venue le chercher pour lui proposer les commandes d'une toute nouvelle émission qui va s'appeler Spectaculaire. C'est un format original, à mi-chemin entre La France a un incroyable talent et Le plus grand cabaret du monde. Le public devra élire le meilleur parmi 12 numéros artistiques, toutes disciplines confondues, de quoi combler le vide laissé par le départ de Patrick Sébastien, remercié par France 2 la saison dernière.
Alors, l'enchaînement que vous m'avez écrit, attention, les zombies ont toujours la cote.
dix ans après le lancement de la série The Walking Dead, énorme carton aux États-Unis, on se concentre, Philippe. Netflix a commandé hier sa propre série de zombies. Pour s'assurer le succès, le géant du streaming a décidé de parier sur une marque connue, Resident Evil.
C'est un jeu vidéo, c'est ça ?
À la base, oui. Ouais. Il a été lancé en 96. Il fêtera donc ses 25 ans l'an prochain. Depuis, plus de 100 millions d'exemplaires des différentes versions du jeu ont été vendus dans le monde. La marque a aussi été déclinée au cinéma, avec pas moins de 6 films qui ont généré au total la modique somme de 1,2 milliard de dollars.
Et alors, de quoi Charles va parler cette série ?
Eh bien, le dernier film de la saga qui sortait en 2017 l'explique assez bien.
Il y a 10 ans, à Raccoon City, il y a eu une épidémie. Elle s'est répandue dans le monde entier en quelques jours.
D'une manière ou d'une autre, notre monde touche à sa fin. La question est, allons-nous mourir avec lui ?
Même point de départ, donc un mystérieux virus laisse environ 15 millions d'humains en vie sur la Terre, tandis que des milliards de zombies et d'animaux infectés peuplent le reste de la planète. On suivra la lutte d'une nouvelle héroïne, Jade, mais la série racontera simultanément sa jeunesse 15 ans plus tôt, avant le virus, et on découvrira que son père y est peut-être mêlé. Mais pour découvrir la série, vous vous en doutez, il faudra se montrer un peu patient, puisqu'elle ne sera a priori mise en ligne qu'en 2021.
Et puis on termine ce journal par une promo originale de TF1 pour le retour de Koh-Lanta.
Et oui, hier soir, Evelyne Delia a reçu un invité inattendu dans son bulletin météo.
Et je dis retour du soleil. Ah bah, Denis, mais, qu'est-ce que vous faites là ?
Mais c'est Evelyne, demain, Koh-Lanta. Non, je ne veux pas faire la météo. Mais moi, j'ai une carte aussi ce soir pour vous.
Oui.
Pour parler de Koh-Lanta demain. Regardez ma carte avec 4 régions. Avec le nord en violet, avec l'ouest en orange, avec l'est. L'Est, oh, c'est pas facile en vert, et le Sud en bleu. Comme quoi, je suis pas prêt à prendre
pas
votre
facile,
place.
Le fond vert.
Les quatre équipes de Koh-Lanta, les quatre terres, demain soir sur TF1.
Alors, je ne sais pas si vous avez, Denis, un Augustin dans votre équipe. En tout cas, vous voyez, demain, sinon, ça va être sa fête.
Ma sentence est irrévocable, chère aventurière Evelyne.
Allez, bonne soirée à tous.
Bonne soirée.
C'est Denis Brognard donc, qui s'est incrusté devant la carte de la météo de la Une. Ce soir, Koh-Lanta fait donc son retour. Alors évidemment, la chaîne ne lésine pas sur la promo. Et quoi de mieux qu'une mise en avant sur l'un des programmes les plus regardés de la journée sur la Une ? La météo est diffusée juste après le journal de TF1, vous le savez, qui réunit en ce moment près de 6 millions de téléspectateurs.
Merci beaucoup Charles. Évidemment, on parlera de la nouvelle saison de Koh-Lanta avec la productrice Alexia Laroche-Joubert, qui sera notre invitée média du jour. Merci, bon week-end. À suivre dans l'info média du jour, un festival culturel maintenu à Perpignan. C'est la 32e édition de Visa pour l'image, événement consacré au photojournalisme. Il aura bien lieu, on en parle avec son président et fondateur, je vais arriver à le dire, Jean-François Leroy. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Enfin, ça fait plaisir, un festival qui ne fait pas partie de la longue liste, la longue litanie des festivités annulées pour cause de Covid-19. Le Festival International de Photographie et de Photojournalisme de Perpignan, pardon, plus connu sous son nom, Visa pour l'image, aura bien lieu à partir de demain et jusqu'au 13 septembre à Perpignan. Et pour en parler, nous sommes justement avec Jean-François Leroy qui est à Perpignan. Bonjour Jean-François.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le président fondateur de ce festival.
Le directeur de ce festival
de photojournalisme. Est-ce que cette 32e édition a failli ne pas avoir lieu ?
Bah oui, comme tout le monde, on a eu beaucoup d'inquiétudes. Mais finalement, on a décidé, début mai, de maintenir une vingtaine d'expositions en présence physique sur Perpignan. Alors évidemment, malheureusement, on n'a pas pu continuer à projeter, à faire nos projections, qui sont un peu la signature du festival. Mais on a quand même travaillé sur ces fameuses soirées de projection. Et on pourra les découvrir sur le site visapourlimage.com, comme si on était à Perpignan, avec un peu, évidemment, la communion de ces 2600 personnes au Campo Santo en moins.
Alors, on parlera évidemment du contenu dans quelques instants, mais en quoi, déjà sur la forme, c'était important pour vous de maintenir le festival à tout prix ?
Ben, si vous voulez, la situation des photographes, elle est tragique, hein, parce que les photographes qui étaient déjà dans une situation difficile, qui n'ont pas travaillé pendant plusieurs mois, il y en a énormément qui sont dans des situations pour le moins précaires. Et je trouve que c'était un signal fort de leur montrer qu'on était toujours à leur côté et qu'on essayait de promouvoir leur travail aussi bien qu'on le pouvait.
Alors, c'est une année exceptionnelle, évidemment, pour cause de coronavirus, pour ne pas dire unique. Quelles mesures sanitaires avez-vous dû prendre sur place ?
Alors, donc on annule la projection des soirées, enfin les soirées de projection. Évidemment, tous les lieux d'exposition, à savoir le couvent des Minimes, la chapelle des Dominicains et la caserne Galeni, seront accessibles uniquement avec un masque. Et on a créé des sens de circulation pour éviter que les gens se croisent, afin d'être en conformité avec les règles sanitaires imposées.
Combien d'expos en tout et dans quel lieu de la ville ? Alors, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui fonctionne ?
Alors il y a une vingtaine enfin 20 expositions très précisément dans 3 lieux de la ville, le couvent des Minimes, la caserne Galieni et la chapelle des Dominicains. Donc une vingtaine d'expositions très variées, très riches, avec beaucoup de bon évidemment il y a deux expositions sur le Covid et il y aura un gros bloc sur le Covid dans nos soirées de projection visibles sur internet, mais on a également beaucoup de choses sur l'environnement et le développement durable avec un tour du monde de la pollution au plastique, la déforestation.
On va détailler tout ça. Est-ce qu'il y a un thème général Jean-François Leroy cette année?
Non, vous savez, on essaye de suivre l'actualité, donc là c'est vrai que cette année, quand on a commencé à travailler sur le programme, on ne savait pas si on pourrait avoir lieu ou pas, donc on a choisi de s'orienter vers des expositions qui étaient un peu intemporelles.
Pardonnez-moi, ça se démarre. Dans la pensée, ça commence quand, un visa pour l'image ? Quand commencez-vous à travailler sur la saison suivante ?
À la fin de l'édition, on commence déjà à imaginer des choses, à recevoir des dossiers. Enfin, les dossiers, on commence à les recevoir à partir de janvier. Mais vous savez, aujourd'hui, Visa pour l'image a une telle aura que tout le monde veut y être, et donc on m'envoie des sujets du monde entier.
Non, mais je veux dire par là que donc le Visa pour l'image précédent, ça s'est terminé en septembre, et vous aviez déjà anticipé le Covid, non ?
Non, heureusement.
Voilà, c'est pour ça.
Mais si vous voulez, en octobre l'année dernière, on avait déjà des idées d'expositions qu'on voulait réaliser.
Ouais.
C'est ça que je veux dire. Après, dans nos soirées de projection, comme vous le savez, on fait une chronologie soir par soir. On prend 2 mois de l'année. Et là, on a travaillé dessus là en temps réel. Et donc, on a vu arriver le Covid, le confinement, etc. Et on a bien eu peur de ne pas pouvoir survivre comme tant d'autres événements.
Alors, qu'est-ce qu'on pourra voir ? Quel photographe de quel pays ?
Alors il y aura, j'ai envie de vous parler de James Whitlow Delano qui a travaillé sur, il a fait un tour du monde de la pollution au plastique, et c'est vrai que quand on voit...
Ah, j'ai vu ces images, c'était absolument stupéfiant, je me souviens très bien.
C'est stupéfiant et c'est angoissant. Et puis on verra la déforestation en Amazonie de Victor Moriyama, on verra l'industrie la plus polluante du sud de l'Italie avec Elena Chernichova, on verra la guerre en Irak avec Emilienne Malfatto, on verra beaucoup, donc 2 expositions sur le Covid avec entre autres ce travail superbe de Peter Turnley qui a travaillé sur le foyer d'épidémie à New York, qui a été un gros foyer d'épidémie aux États-Unis. Et puis il y aura une expo sur les protestations qui ont eu lieu après la mort de George Floyd, qu'on a appelé naturellement I Can't Breathe. Donc plus dans le programme, dans les soirées, si vous voulez, on s'est attaché à montrer tout ce qui a changé, bougé, était l'actualité de l'année.
C'est là où on voit, Jean-François Leroy, que votre festival n'est absolument pas un festival académique, puisque quand vous lancez l'édition, évidemment, vous ne vous doutez pas qu'il va y avoir le Covid, encore moins les manifestations Black Lives Matter. Comment vous travaillez? C'est vous qui contactez les photographes en disant « il y a un sujet qui m'intéresse, on essaie de trouver un type qui a travaillé sur le sujet, ça marche dans l'autre sens, comment vous travaillez ?»
Ça marche dans les deux sens, Philippe. C'est-à-dire que d'abord...
Là, en l'occurrence, le Covid, par exemple.
Ben, le Covid, j'ai reçu alors des centaines de propositions sur le Covid, parce que forcément, chaque photographe a voulu montrer son confinement, les villes désertes, etc. Mm-hmm. Donc ça a été extrêmement difficile de faire un choix. Et puis à un moment, j'ai vu les photos de Peter Turnley, et donc je trouvais ça intéressant de montrer le regard d'un photographe sur sa ville. Et j'ai appelé Peter en lui disant que j'aimerais l'exposer.
Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne les ai pas vues. Qu'est-ce qu'on voit dans ces photos? Parce que des photos du Covid, on en a vu et on en a revu. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier qui fait qu'elles vous ont séduit et que vous avez décidé de le programmer dans Visa pour l'image?
Alors, elles sont assez poignantes, parce que, bon, effectivement, on voit beaucoup, beaucoup de gens masqués. On voit aussi des gens sans masque, les SDF principalement. Et puis Peter s'est attaché, et c'est ça qui est très touchant, à raconter la vie des gens qui photographient. Donc l'infirmière qui pleure en regardant une photo de Martin Luther King, les pompiers qui pleurent avant de monter dans leur camion parce qu'ils sont épuisés. Enfin, je veux dire, c'est le Covid à New York sous un angle totalement humain.
Et je vous pose la même question pour l'expo dont vous avez parlé sur Black Lives Matter et les émeutes des Afro-Américains aux États-Unis. Quel est le photographe et quel a été son travail et comment l'avez-vous choisi? Qu'est-ce qui a présidé à votre décision?
Alors là, on a fait quelque chose qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de faire, mais on s'est adressé à 6 quotidiens américains en leur demandant de nous donner les 12 photos qui les avaient le plus frappés dans leur production sur les protestations après la mort de George Floyd. Et on a eu 4 d'entre eux nous ont répondu, pas les moindres. On a Los Angeles Times, New York Times, Washington Post et Sacramento Bee, qui nous ont chacun envoyé une douzaine d'images qui, selon eux, représentent le mieux la couverture des émeutes de I Can't Breathe. Donc ça, c'est pas un choix personnel, c'est un choix qu'ont fait ces 4 directeurs de la photo de quotidiens américains qui sont au-dessus de tout soupçon en matière de goût photographique.
Et ça en dit très très long également sur la réputation, le sérieux et le talent du festival que vous dirigez, Visa pour l'image. Vous restez avec nous, Jean-François Leroy, on marque une pause et on a encore plein de questions à vous poser. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jean-François Leroy, qui est à distance, il est à Perpignan, justement, il est le directeur du Festival international du photojournalisme, qu'on appelle Visa, et qui s'appelle Visa pour l'image. Cette vingtaine d'expositions dont nous parlions est gratuite. Comment vous faites?
Ben, si vous voulez, on a des partenaires qui nous soutiennent, et on a toujours voulu. Au départ, il y a 32 ans, Visa, on voulait faire descendre l'information dans la rue. C'est-à-dire que je pense que les gens sont curieux de découvrir l'actualité du monde, qu'on ne voit plus assez peut-être dans les médias. En permettant d'accéder gratuitement à toutes ces expositions ou à ces soirées dans une année normale, on rencontre un public qu'on ne rencontrerait pas, je pense, si on faisait payer des entrées.
Alors, vous parlez de rencontres, vous avez réussi à maintenir les expositions avec les contraintes sanitaires qu'on a évoquées et qu'on imagine. En revanche, toutes les rencontres, celles qu'on avait l'habitude de voir, de faire habituellement, les précédentes éditions, toutes les rencontres seront virtuelles, c'est bien ça?
Oui, enfin, il y en aura moins qu'une année normale, bien évidemment. Mais on a quand même la chance de recevoir 7 ou 8 photographes exposants. Donc on va organiser des visites de leurs expositions en vidéo qu'on mettra sur notre site internet.
Et est-ce qu'on pourra leur poser des questions? Est-ce que vous avez vu la conférence du Tour de France, la conférence de presse? Tous les journalistes sont réunis dans une salle, dans un amphithéâtre, mais le coureur à qui on pose les questions est à distance.
Alors écoutez, ça malheureusement, on n'a pas eu le temps de mettre ça en place. Donc ce sera un one-way, c'est-à-dire il n'y aura pas de possibilité de dialoguer avec le photographe, malheureusement. On trouvera d'autres solutions pour l'année prochaine.
Il y aura aussi les projections sont maintenues.
Les projections auront lieu sur Internet, oui, ouais. Sur le site www.visapourlimage.com. Il suffit de vous inscrire, évidemment c'est gratuit, et vous aurez accès jour après jour aux soirées que nous avions prévues que nous aurions espéré faire au Campo Santo.
Vous parlez de soirée, ça sera accessible au moment de la soirée ou une fois qu'on est inscrit, on peut regarder à n'importe quel moment de la journée?
Non, vous aurez 26 heures pour regarder une soirée, c'est-à-dire le lundi, ça commencera de 10 heures du matin au mardi 14 heures, etc. Parce que au début, on voulait le faire en temps réel et puis on s'est rendu compte très vite en réfléchissant un peu que entre les gens qui étaient à New York ou à Los Angeles et ceux qui étaient à Tokyo ou à Hong Kong, on pouvait pas le faire à 9h, à 21h30 comme prévu.
C'est assez
on a laissé cette amplitude pour que les gens puissent accéder sur leur tablette, même sur leur smartphone, ce sera visible.
J'aurais pas vu les choses sous cet angle, c'est assez impressionnant votre vision du monde global et c'est là où on reconnaît le photojournalisme. Si on est à Paris, petite chance, il y a Visa pour l'image à Paris, pas tout à fait à Paris, c'est à la Villette, racontez ce qui va se passer.
Alors à la Villette, les 19 et 20 septembre, le 19 à 20h et le 20 à 16h, on va faire un best-of de nos soirées de projection qui va durer à peu près 1h30 ou 2h. Et on maintient pour le moment ces projections à la Villette.
À Perpignan, c'est très important pour vous. Est-ce que l'accueil des scolaires est maintenu malgré les contraintes sanitaires? On en parle beaucoup, beaucoup. Les ministres font des communications tous les jours, se contredisent parfois entre eux depuis des mois d'ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer pour les scolaires à Perpignan?
Alors pour les scolaires, j'ai invité 5 photographes et j'y serai également, donc on sera 6 intervenants. Mmh. Et cette année, il y aura 2 semaines scolaires. Il y aura la première semaine pendant laquelle il y aura ces intervenants qui répondront aux questions. Donc on prend des rendez-vous avec des classes et on les reçoit dans des endroits où ils sont assis, les masques, etc. Et la deuxième semaine, c'est pour les groupes qui n'ont pas demandé de rendez-vous et qui verront les expositions. Mais vous savez, je pense que la transmission de ces informations, elle est capitale et je pense que c'est un des rôles principaux rôles de Visa, c'est d'éduquer, montrer l'importance d'une légende, l'importance du déroulement d'une histoire pour essayer de contrer un peu la culture visuelle de tous ces gamins qui se développent malheureusement beaucoup trop sur les réseaux sociaux et qui donnent une information fragmentaire. On essaye d'éduquer aux médias.
Puisqu'on parle du local, les enfants sur place de Perpignan, un mot de politique. Perpignan est devenu, au printemps dernier, la plus grande ville de France administrée par un élu d'extrême droite, en l'occurrence Louis Alliot, du Rassemblement National ou apparenté au Rassemblement National. Comment se passe la cohabitation, entre vous deux et entre vous, entre lui et le festival?
Alors écoutez, moi je n'ai pas encore rencontré monsieur le maire, je le rencontre demain matin à l'inauguration, mais pour le moment je travaille avec ses équipes et je touche du bois, mais il n'y a pas de changement programmé pour le moment. Mais vous savez, Philippe, tout le monde connaît mon indépendance et mon positionnement politique. Donc, ils savent très bien que je ne partage pas leurs valeurs. Mais tant qu'ils respecteront ma liberté, tout peut très bien se passer.
Je sais, justement, je vous pose la question, car vous aviez dit dans une interview avant l'élection que vous comptiez, je vous cite, Jean-François Leroy, résister de l'intérieur.
Mais résister de l'intérieur, si vous voulez, il y a 2 solutions. Soit on démissionne et on s'en va. Mmh. Je trouve ça trop facile parce que je vois pas pourquoi je priverais Perpignan de cet événement. Tous les électeurs, Monsieur Alliot n'a pas été élu avec 100% des voix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que j'ai des équipes locales qui bossent avec moi depuis 32 ans. Et je vois pas comment recréer une équipe, des équipes aussi performantes que celles que j'ai ici, en quelques mois ou quelques années. Après, je vous cache pas que au lendemain des élections, j'ai reçu plusieurs appels de municipalités qui me disent que déplacer le festival, ils seraient heureux de m'accueillir. Mais pour le moment, j'ai pas dans l'idée de déplacer Visa pour l'image.
Et pour être complet, il faut dire que Louis Alliot a fait une déclaration dans laquelle, avant l'élection, il disait qu'il continuerait à soutenir le festival, qualifié par lui de vitrine culturelle magnifique pour la ville et emblème de la défense des libertés. Juste un mot au sujet des photographes, de la profession de photographe qui pâtit énormément de la crise sanitaire. Quel bilan on peut dresser? Comment font-ils pour vivre, pour survivre? Quel est l'état des lieux?
Voilà, c'est honnêtement, Philippe, c'est une catastrophe parce que vous savez, l'état du photojournalisme était déjà précaire, mais là, après des mois sans travailler du tout, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont dans des situations catastrophiques. Et moi, je reçois tous les jours des messages de photographes qui sont des habitués de Visa et qui me disent malheureusement cette année on pourra pas venir parce qu'on n'a pas d'argent. Donc c'est très inquiétant et c'est des gens qui ont toujours manifesté beaucoup de courage, beaucoup d'opiniâtreté. Mais là, cette année, ils sont vraiment dans des situations extrêmement difficiles.
Merci beaucoup, Jean-François Leroy. Merci pour ce soutien, cette sollicitude et ce professionnalisme. Directeur du Festival international du photojournalisme de Perpignan, d'où vous nous parlez en direct. Ça démarre demain et jusqu'au 13 septembre dans plusieurs sites de la ville. Et c'est partout sur votre site visapourlimage.com. Merci d'avoir été avec nous en direct. Dans un instant, Alexia Laroche-Joubert, la productrice de la nouvelle saison hors norme de Koh-Lanta. Ça démarre ce soir sur TF1 et elle est aussi productrice de Fort Boyard sur la 2. C'est demain. Non, c'est ce soir Koh-Lanta, c'est demain France 2. En tout cas, c'est tout à l'heure, c'est dans un instant. Alexia Laroche-Joubert, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour Alexia Laroche-Joubert.
Bonjour.
Vous êtes productrice de télévision. Bonjour. On vous doit la première émission de télé-réalité Love Story. C'était en 2001, Star Academy, plein d'autres émissions, je ne peux pas tout citer. Mais surtout, vous avez pris la tête de la société ALP. Donc, c'est vous qui désormais produisez les émissions les plus rassembleuses de la télé, notamment Fort Boyard, Koh-Lanta, qui en est à sa 27e ou 28e saison. Le titre, c'est Koh-Lanta, les 4 terres. Koh-Lanta, ça redémarre ce soir sur TF1. Attention, nouveauté, non plus 2, non plus 3. Mais 4 équipes, comme on dit, expliquées.
Ah, ça a été un pari insensé que de faire 4 équipes, parce que c'est une première française, on n'avait jamais fait ça. Ça a été fait quelques fois aux États-Unis, mais c'est extrêmement compliqué en termes de production, parce que ça suppose de faire 4 jeux, de multiplier les équipes, etc. Et c'est vrai qu'on était à Fidji, qu'on connaissait bien le lieu, qu'on connaissait la richesse des plages, et on s'est dit, on l'attend cette année. Et il fallait trouver évidemment une bonne idée, et on a séparé ça en 4 terres, donc c'est la France séparée en 4 terres, l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord, avec 24 candidats qui vont porter les couleurs de leur région avec brio.
Ouais, avec des couleurs toutes bizarroïdes. Bah, on a entendu Denis Brognard, il s'est planté sur les couleurs. Il y a des violets, il n'y a plus...
Il y a violet, orange, bleu et vert.
C'est les Américains qui ont eu cette idée-là ?
Alors les Américains, ils ont fait 4 équipes, mais pas du tout avec ce concept-là.
Ah, pas avec les régions ?
Pas du tout. Ah non, non.
Parce que
c'est une première mondiale.
Mais je me suis dit, ça, c'est un concept d'Alexia, parce qu'Alexia Laroche-Joubert, c'est un peu les ch'tis contre les Marseillais, et c'est une idée à vous.
Alors, pour être franche, rendons à César ce qui est à César, c'est une idée de Julien Magne.
Non, mais c'est vous qui produisez les ch'tis, les Marseillais, qui a mis en scène, les ch'tis contre les Marseillais, c'est votre idée.
Mais en revanche, les 4 terres, c'est Julien Magne qui est producteur de Koh-Lanta.
TF1 diffuse des teasers. Un teaser, c'est plus qu'une bande-annonce. En l'occurrence, c'est Denis Brognard, le présentateur, qui explique les nouvelles règles du jeu.
Voilà, 4 tribus face à face, avec une grande nouveauté sur les jeux de confort. Il y aura 2 récompenses à gagner. La tribu qui l'emportera choisira entre les 2 récompenses. La tribu qui terminera 2e prendra la récompense qui n'aura pas été choisie par les gagnants. La tribu 3e rentrera sur son camp Bredouille. Et en revanche, la nouveauté, c'est pour la tribu qui terminera 4e. Elle partira pendant 24 heures sur l'îlot de l'exil, balayé par les vents, où, croyez-moi, il n'y a quasiment rien.
Alors l'îlot, on le voit à l'image, il est absolument magnifique. On a l'impression qu'il fait 50 mètres sur 28. Et comme disait Coluche, pas un troquet, pas une mobilette. Qu'est-ce qu'ils font sur cet
j'adore
îlot
ça.
Mais oui.
Et bien justement, ils ne font
ils
rien.
Ils s'engueulent.
Non, ils s'engueulent
parce que
pas.
Si on est 6 dans 50 mètres carrés,
ils sont
qu'on a
en
la dalle...
panique. On va être très clair, ils sont en panique. Parce que je conseille tout le monde, évidemment, de regarder l'épisode de ce soir qui démarre sur TF1. Il s'avère qu'il y a évidemment une équipe qui va perdre dès le début, qui ne va même pas avoir la chance de découvrir son camp et qui va aller directement sur l'îlot de l'exil. Ah ouais. Et là, le choc est ultra violent parce qu'il n'y a pas d'eau, rien à manger, c'est vraiment balayé par les vents, il fait froid, il y a de la pluie, l'enfer.
Ils se connaissent depuis combien de temps ?
Ah ben, ils se connaissent, on va dire, depuis 3-4 heures.
Waouh ! Voilà, dis donc, on n'a pas le temps.
Parce que c'est la force du programme qui est dingue, c'est qu'on a réussi à garder le secret avec TF1 et même nos équipes n'étaient pas au courant sur la répartition des équipes, donc personne ne savait que c'était les régions. Donc quand ils sont arrivés, ils ont déposé le premier pied sur l'île, on leur a dit d'un seul coup, vous portez leur région. Et ça a été fantastique parce qu'ils se sont emparés de ça avec une fierté auquel on ne s'attendait pas, parce que c'est comme tout, vous écrivez ça sur le papier, vous ne savez pas comment ça va se jouer,
ouais.
Et c'est génial, ça marche hyper bien.
Ça se trouve, ils se détestent entre eux et les familles se détestent. Vous attendez quelles audiences? je vous dis le sens de ma question, c'est que pour la dernière saison, les audiences ont été évidemment pharaoniques. 7 millions parfois de téléspectateurs à cause du confinement.
Jusqu'à 7,5 millions, ouais. Record absolu depuis 2014. On attend, alors il y a eu le confinement qui a beaucoup joué, on attend évidemment de très belles audiences, on sait qu'il y a une véritable appétence, et la grande fierté que j'ai eue par rapport à la saison dernière, c'est qu'on a ramené les jeunes qui, pour certains, ne connaissaient pas le programme, et d'un seul coup, moi, mes filles me disaient, on va regarder Koh-Lanta. Et c'était, enfin, c'est idiot, mais c'était une vraie fierté.
Non, mais ça, c'est différent. C'est parce qu'elles étaient en crise d'ado, elles ne voulaient pas regarder le programme de leur maman.
Ah, peut-être. Mais enfin, bon, en tout cas, visiblement, elles ne sont plus en crise d'ado, donc j'ai une double nouvelle. Elles regardent, elles ne sont plus en crise d'ado.
Ça a été tourné quand, Alexia Laroche-Joubert?
Ça a été tourné.
Avant ou après, ou pendant
alors,
le Covid?
Alors, vous savez quoi, c'est surréaliste, parce que quelquefois, on est en post-prod de la prochaine, on est en tournage de celle qui va suivre, et on fait le casting de la troisième. Donc, attendez, on est au mois de. Août, et donc ça a été tourné celle-ci en octobre.
D'accord.
Et d'où la chance que j'ai eue, c'est qu'en plein Covid, d'habitude on tourne en mars, et là on n'a pas dû, on tournait pas, c'était pas prévu, donc on n'a pas eu besoin d'annuler cette saison.
Alors, en plus de Koh-Lanta, vous produisez également une autre émission emblématique, c'est Fort Boyard. La nouvelle saison a démarré le 11 juillet sur France 2, c'était pas gagné. Le 5 juin dernier, vous étiez dans notre émission Culture Média. Vous deviez partir en tournage avec Fort Boyard et vous n'aviez aucune garantie de la part des assureurs, alors que par ailleurs, ils étaient engagés à soutenir le cinéma français, on les comprend, mais rien pour la télé souvenir.
C'est rare que je parle comme ça, hein, parce que je suis plutôt quelqu'un de colérique, mais maintenant je suis inquiète. Fort Boyard, c'est un monument à la fois au sens figuré, au sens littéral, et ce monument est en péril. Je pars normalement dans 8 jours commencer les tournages, et actuellement il n'y a aucune assurance, c'est-à-dire que les assureurs ont décidé de ne pas nous assurer. Donc j'ai des millions en jeu, à tel point que si par hasard je ne peux pas tourner pour cause de Covid, parce que j'ai un ou deux ou trois ou quatre cas de Covid, c'est catastrophique, c'est-à-dire que ALP peut mettre la clé sous la porte et ne plus jamais pouvoir diffuser Fort Boyard.
Avez-vous été entendu par les assureurs ou est-ce que vous êtes parti à vos risques et périls ?
Alors, j'ai pas été entendue par les assureurs. En revanche, le gouvernement s'est mobilisé, le CNC s'est mobilisé et la DGMIC. Et donc, actuellement, il y a un décret qui est en cours de rédaction pour englober les programmes de flux et donc protéger à la fois nos futures productions et mes camarades.
Donc, pardon, juste un mot, c'est quoi la DGMIC ?
C'est l'organe financier du CNC et du ministère de la Culture. Enfin, c'est du ministère de la Culture. Enfin, c'est l'organe financier du ministère de la Culture.
Donc, c'est la culture qui finance ou qui garantit
Et elle garantit, c'est un fonds de garantie, donc
Fort
ça
Boyard.
N'intervient qu'en cas de sinistre.
Vous avez pu tourner les 11 émissions ?
On a tourné toutes les émissions. Il faut dire qu'on a fait très attention parce qu'à l'époque, on n'était pas donc assurés. Les assurances fonctionneront pour le futur. Et puis, heureusement, on n'a eu aucun cas.
D'accord. Et tous les candidats arrivent masqués. On va en parler dans un instant parce qu'il y a l'émission aussi. Et puis là aussi, il y a du nouveau sur Fort Boyard. Vous restez avec nous, Alexia Laroche-Joubert. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de la productrice Alexia Laroche-Joubert, je rappelle Koh-Lanta que vous produisez, ça démarre ce soir sur TF1. Demain sur la 2, c'est Fort Boyard. C'est la saison qui continue. Ça avait démarré le 11 juillet. Ça nous amène jusqu'au samedi 19 septembre. Ça marche bien ?
C'est un succès dingue.
Ah bon ?
Alors déjà, le 30e anniversaire était incroyable. Et là, par exemple, on a le 3e meilleur score historique sur les ménagères. On a 42,9% sur les 15-24. Non, on est très, très, très contents avec plein de nouveautés.
Vous savez quoi ? Je ne savais pas que France Télévisions regardait le score sur les ménagères.
Ah bah moi je le regarde en tout cas.
Oui.
Non mais évidemment ils le regardent. Non mais il y a des cibles, il y a quand même, ils ont une régie pub, hein, vous savez, France Télévisions.
Oui mais il n'y a pas de pub après 20h.
Oui
après 21
mais ça, dans ces cas-là, la journée, ça porte la journée.
D'accord, j'ai bien compris. Quoi de nouveau dans l'émission ? Quand on voit l'antenne, moi j'ai vu l'émission qui passe demain. Tous les candidats arrivent masqués sauf Olivier Mine, le présentateur. À la suite de quoi ils enlèvent leur masque. Il n'y a plus d'épreuve en duo. Pour cause de Covid ?
Ouais, exactement. En fin de compte, la fameuse épreuve de la boue, pas de boue cette saison, parce que c'était trop compliqué, évidemment.
J'ai pensé que
barrières.
L'épreuve de la boue avait été supprimée à cause des atermoiements et des protestations de certaines féministes.
Ah, pas du tout. Non, il y avait eu le cylindre,
oui.
En l'occurrence que j'avais arrêté même avant tout ça. Non, la boue, c'est purement Covid. Non, mais il faut surtout noter l'arrivée de Cyril Gosbeau, avec
oui.
Cyril Ferraud qui est exceptionnel, dans un jeu où il se caricature lui-même à l'extrême en animateur, on va dire américain, aux dents blanches et au regard sanguinaire, parce qu'il a un côté un peu vicieux. Donc il est exceptionnel. Enfin, il y a plein de nouveautés et Et j'avoue qu'on est très très content de cette saison.
Avant que je détaille les nouveautés, dans l'émission de ce soir, je vais donner les candidats. Il y a Camille Lacour, sa nouvelle fiancée Alice Detaux, qui est une mannequin, Enora Malagré, Yuan Ryu de la chaîne L'Équipe, et un certain Moussa. Alors il n'a pas de nom de famille, je ne le connaissais pas, et il est présenté comme aventurier. Il est aventurier de quoi,
Mais c'est Koh-Lanta.
Mais voilà, et
c'est
je me suis
Moussa
dit...
de Koh-Lanta.
Ouais, et je me suis dit, tiens, elle recycle ses candidats de Koh-Lanta.
Alors je ne recycle pas. Moussa avait très très envie, comme Claude, d'ailleurs, qui a participé à la première de Fort Boyard, de faire Fort Boyard. Chacun a des enfants, ouais. Et donc c'est important. Et pour la petite histoire, Camille Lacour, il va faire la catapulte infernale.
Mais je l'ai vu.
Et voilà, à la demande de sa fille, Jazz. Et voilà, ça va faire des grandes émotions.
Mais j'ai vu l'image, j'ai vu Camille Lacour catapultée. Juste un mot là-dessus sur les crossovers. Est-ce que France 2 aime bien que vous ameniez des vedettes de TF1 ou au contraire, vous devez batailler? Ou est-ce qu'ils vous imposent des gens de chez eux, de leur écurie? Souvent, les chaînes veulent des gens de chez eux.
Ouais, alors, j'avoue que c'est en totale concertation. En tout cas, il faudrait plutôt demander à TF1 si ça les embête pas d'avoir des gens qui vont sur France 2.
Parce que le Moussa, il est présenté comme aventurier et non pas aventurier de Koh-Lanta sur TF1. C'est pour ça que ça m'a frappé. Je me dis, tiens, on le fait passer en loose day.
Non, alors franchement, pas du tout. Oh, bah non, mais c'est compliqué. Moussa en loose day, vous avez vu le garçon?
Non, il est le seul qui n'a pas de nom de famille. Ça m'a vraiment frappé. Il est le seul qui n'a pas de nom de famille.
Non, mais parce qu'il s'est toujours présenté comme ça, c'est son choix.
Autre nouvelle épreuve, une épreuve de maths. Incarné par Kevin Razi, qui n'est pas le meilleur de la Terre en maths, c'est pour ça que c'est assez marrant. En l'occurrence, là, c'est Alice Detaux qui doit mettre sa main dans 3 boîtes. Elle doit compter le nombre d'objets qui s'y trouvent. Elle ne voit pas évidemment ce qu'il y a au fond des boîtes et faire un calcul. Donc, il faut le premier nombre qu'on multiplie par le second nombre plus le troisième nombre. Sauf qu'au fond des boîtes, il n'y a pas des billes, il n'y a pas des cubes, mais il y a des animaux vivants, des crapauds, des scorpions, des souris. Et là, on tombe sur un invariant, un grand classique de Fort Boyard, les cris d'horreur.
Il y a quelque chose là-dedans qui... C'est quoi ? Il y a un truc vivant ? Je sais pas c'est quoi du jeu. Touche ! J'ai peur !
Oh là là !
Il est arrivé qu'il y a des candidats qui tournent de l'œil ?
Ah non, on n'a jamais eu ça. On a eu des grosses frayeurs sur toutes les épreuves, en l'occurrence au-dessus du fort, genre la chaise, etc. Mais jamais avec les animaux.
Patrick Cohen, qui est ici d'Europe 1, qui a été catapulté, on a failli plus jamais le revoir, Patrick Cohen. Non, mais il a dit que c'était vraiment très intense.
Tout ce qui est en hauteur est très impressionnant. Ça, j'avoue, et on essaie de rendre ça au maximum. Et je crois que même en essayant de le capter, c'est moins difficile que quand on le vit.
Alors, je dis pas ce soir.
Et Kevin Razi est à mourir de rire. Moi, ça fait très longtemps que j'avais envie de travailler avec lui, donc je suis ravie.
Et Yuan Ryu de la chaîne L'Équipe, c'est le type qui commente les matchs de foot sans qu'on puisse les voir, mais on voit lui. Et il est dans une sorte de lessiveuse. Et ensuite, il est catapulté, il joue au basket. C'est quand même quelque chose. Mais je me suis dit, oui, ils vont le perdre. Nouvelle épreuve. Nouveau personnage, Tata Fouras, d'un mot.
Oh bah, Tata Fouras, c'est un personnage pas très vivant, on va dire, qui a une boule de cristal et qui voit certaines choses.
Je le répète, Fort Boyard, c'est demain, j'arrête pas de me tromper avec toutes vos émissions. Vous allez, ça pour les assurances, je sais, un mot de votre avenir. Pendant le confinement, vous aviez imaginé un programme génial, disiez-vous, du dating à distance. TF1 s'était dit intéressé. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça va se faire?
Non, au final, ça ne se fera pas.
Mince.
Ça arrive, hein, c'est la vie des producteurs de télévision. Je pense que sortir du confinement, ils ne se sentaient pas de mettre un programme comme ça. Pourtant, c'était vraiment dans la logique de ce qui s'était passé à cette époque-là. Mais en dating, moi, j'ai surtout 10 couples qui cartonnent. J'ai une rentrée super. 10 couples sur TF6, qui est notre programme de télé-réalité.
C'est quoi 10 couples? Il y a 10 couples?
10 couples parfaits. En fin de compte, c'est 10 célibataires filles, 10 célibataires garçons qui doivent trouver leur bon match. Et s'ils trouvent la bonne combinaison des 10, ils en poche 200 000 euros.
C'est horrible, mais quand t'es le dernier, et c'est comme quand on joue au foot à l'école maternelle et on est retenu en dernier, c'est horrible pour ceux qui arrivent en...
Non, parce qu'il faut tous, c'est à la fois de la solidarité et de l'individualité, donc il faut tous qui trouvent les bons matchs, et s'ils trouvent tous, ils gagnent l'argent. Donc c'est plutôt très sympa, mais l'amour ou l'argent, toujours une grande problématique.
Un mot à propos de vous, Alexia Laroche-Joubert, vous aviez été atteinte par la maladie, par le Covid, c'était le 6 mars dernier. Vous dites que vous êtes sentie comme une pestiférée. Et maintenant, comment ça va?
Alors, c'est très intéressant. Merci de me donner la parole là-dessus. Parce qu'il s'avère que j'ai fait 2 tests d'immunité. Donc j'ai fait un test fin avril où j'avais 68% d'immunité. J'ai refait un test il y a 3 semaines où j'ai 19% d'immunité. Donc tout ça pour dire que les gens qui ont eu le Covid, faites très attention parce que l'immunité passe
très vite.
Passe très vite.
Imagine que c'est comme la grippe, est vacciné.
Et pas du tout. Donc il faut faire très attention. Donc respectez les gestes barrières, même ceux qui ont eu le Covid.
Et je dois dire pour les gens qui nous voient sur Europe1.fr, Alexia Larojoubert n'a pas de masque, mais elle est entrée dans ce studio avec le masque et on s'est salué avec un coup de coude. Merci beaucoup, Alexia Larojoubert. Je vais pas me gourer parce que je l'écris. Koh-Lanta, c'est ce soir sur TF1, Fort Boyard, c'est demain sur La 2. Merci d'avoir été avec nous
en
direct.
Merci à vous. Au revoir.
Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain consacré à deux artistes et Bertrand Chameroy pour son écran de veille, cette fois-ci spécial mode. Claire Chazal ensuite, on va parler culture et c'est le retour lundi de son émission emblématique culturelle quotidienne Passage des Arts sur France 5 et puis dans Les Indispensables, une série très politique sur l'Amérique et puis de la cuisine avec des recettes très très fruitées. À tout de suite.